15e rendez-vous déjà de mémoire aveyronnaise sur CFM Rodez et à la présentation de cette émission, Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du souvenir français.
Eh oui, affirmatif.
Alors, il y a 15 jours, après quelques petites péripéties, tu nous avais annoncé pour ce numéro 15 de mémoire aveyronnaise une balade dans les rues ruthénoises,
oui.
Si j'ai bon souvenir.
C'est
t'as,
ça.
T'as pas changé le programme.
Alors la dernière fois, si, mais maintenant non. Donc on va se tenir à ce qui est prévu.
Bon, très bien. Alors une balade peut-être pour nous, mais sinon pas vraiment une balade quoi. On va pas se promener à aller cueillir des fleurs.
Non, on va lever les yeux, on va regarder un petit peu partout. Moi, je suis toujours très curieux, surtout au niveau patrimoine, et on est vraiment surpris des fois quand on prend le temps, même quand on connaît très bien. C'est surtout le cas quand on connaît des fois trop bien, on voit plus rien du tout. Mais voilà, chaque fois de s'arrêter, quand on voit une plaque pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu, qu'est-ce qui est marqué dessus. Des fois, on est surpris parce qu'on passe devant des fois des plaques commémoratives tous les jours, des fois très discrètes. Et quand on s'arrête enfin pour lire, on se dit « Ah, mais tiens, je savais pas.
» Et alors là, donc aujourd'hui, c'est toi qui as fait le boulot pour nous, de les lire ces plaques. Enfin, ce qui ne nous empêchera pas d'ailleurs ensuite d'aller les chercher, de les
retrouver. J'espère, je fais ça pour. D'ailleurs, chers auditeurs, toi aussi, interrogation écrite à la prochaine fois.
D'accord. Alors, balade sur les lieux de l'occupation, de la collaboration et de la libération.
Oui, la Seconde Guerre mondiale à Rodez, oui.
Très bien. Il y en a beaucoup des lieux.
Il y en a pas mal. Ouais. Ouais, il y en a pas mal. Moi, je vais en prendre 22.
Oh là !
Ah oui, non, mais...
Alors, 22, les lieux, non, c'est trop.
22, là, les lieux. Ouais. Je te rassure et je vous rassure, chers auditeurs, ouais, oui. Ça fait un peu beaucoup.
Oui.
C'est pour cela que, pour cette émission, cette chronique historique de mémoire aveyronnaise, en fait, nous n'allons pas faire une chronique historique,
oui.
Mais deux.
Ah d'accord.
Il faudra être patient. La suite au prochain épisode.
Très bien, ok, super. Bon, non, mais tu fais bien, comme ça on pourra un petit peu développer.
Oui.
Chacun de ces lieux. Bon, alors on va commencer par où et comment.
Alors déjà la présentation.
Oui.
Pourquoi ces lieux? Pourquoi cette balade ruthénoise? En fait, j'ai le plaisir, depuis quelques années, d'animer une rando-mémoire tous les 17 août. Il y a la Fédération française de randonnée, en fait, qui est à l'origine de cette rando-mémoire, et qui m'a demandé de venir, il y a quelques années de cela, parler un petit peu de ces lieux historiques de la Seconde Guerre mondiale à Rodez. Pourquoi? Parce que, donc comme je viens de le dire, c'est le 17 août. Et le 17 août, nous célébrons un événement tragique pour Rodez et pour les Aveyronnais. C'est l'exécution de 30 otages et résistants à la butte de tir de Saint-Radegonde.
Les fusillés de Saint-Radegonde.
Les fameux fusillés de Saint-Radegonde avec la venue des fusillés de Saint-Radegonde. Mmh. Alors, en fait, nous reprenons, la rando-mémoire reprend le parcours des camions qui vont partir jusqu'à Saint-Radegonde. Mmh. Nous démarrons de la caserne Burloup.
Ouais.
Je vais développer, je vais en parler tout à l'heure. Mmh. Et cette rando-mémoire s'arrête donc à Saint-Radegonde. Ça sera notre, on va pas parler de chemin de croix, mais notre 22e station pour donc s'arrêter à Saint-Radegonde, à peu près une heure, le temps de souffler un peu, de prendre un petit goûter, avant la cérémonie officielle d'hommage aux fusillés de Saint-Radegonde.
Voilà. D'accord, le 17 août, donc chaque 17 août.
Chaque 17 août, quand mademoiselle ou madame la Covid-19 ne nous embête pas, là ça fait deux années qu'on n'a pas pu faire cette rando-mémoire, c'est bien dommage. Il y a pas mal de personnes, chaque fois, je suis le premier surpris, on va dire en moyenne entre 70, 80, voire même plus de personnes. Je peux pas trop en dire, mais a priori, si tout va bien, je réserve une surprise, donc justement au départ de cette rando-mémoire, pour cette année, si nous arrivons à la faire et si ce projet réussit à avoir le jour. Donc je vous mets un peu l'eau à la bouche, je ne vous en dirai pas plus.
Bon, enfin, on aura l'occasion d'en reparler d'ici le mois d'août prochain.
Oui,
sur
tout à fait.
CFM avec toi, Vincent.
Oui, tout à fait.
Alors allons-y pour cette balade.
Alors donc, nous démarrons, je vous l'ai dit, le point numéro 1, à la caserne Burloup. La caserne Burloup, je vous en avais parlé dans notre deuxième émission qui était consacrée à l'histoire des casernes de Rodez. Ce lieu a un double intérêt. Pourquoi ? Parce que après avoir servi à l'armée française, je vous le rappelle, la caserne Burloup a été construite en 1913 après la loi qui a augmenté, qui a fait passer de 2 ans à 3 ans le service militaire. Il fallait donc avoir plus de monde. Cette loi y a contribué. Donc comme il y a eu plus de monde, il a fallu construire, il y avait la caserne Roche et puis la caserne Sainte-Catherine en plein centre-ville, il a fallu construire un nouveau lieu pour accueillir tous ces jeunes qui arrivaient. Donc on a construit une nouvelle caserne, c'est la caserne Burloup. Alors, quand les Allemands sont arrivés, ils ont occupé cette caserne Burloup et elle a servi donc deux fois, malheureusement, pour des raisons tragiques. La première fois, en fait, elle a servi de lieu d'emprisonnement pour des juifs aveyronnais qui ont été raflés en 42 et 44. Mm-hmm. Y a une plaque d'ailleurs qui rappelle cet emprisonnement. On peut lire les noms de 49 juifs dont 8 enfants qui ont été emprisonnés là juste avant de partir pour les camps de concentration et les camps de la mort en Allemagne. Mmh. Ensuite, elle a servi donc pour emprisonner les 31 otages et fusillés qui vont être conduits jusqu'à Saint-Radegonde.
Ah d'accord. Ok, 31 parce qu'il y en a un qui a réussi à sauver qui n'a donc pas été
Alors je sais que tu calcules très bien, ouais. Toi t'es beaucoup plus matheux que moi, j'attendais que tu me dises « Ah mais t'as dit 30, maintenant c'est 31 ouais. ». Oui, effectivement, les otages ont été attachés, otages et résistants ont été attachés par deux avec du fil électrique pour être chargés sur les camions. Donc 31 par deux, ça marche pas. Il y en a un qui est pas attaché, celui-là a réussi à s'échapper. C'est le grand inconnu parce que jamais on a réussi à retrouver sa trace.
Ah ouais.
Jamais, on ne sait pas du tout qui était ce monsieur. Ça a été très très particulier. Des témoins ont parlé d'un étranger qui a frappé à une porte ensanglantée le soir du 17 août 44. La seule chose en français qu'il arrivait à dire, c'est maquis, 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 pour savoir donc où était le plus proche maquis de résistance. Et les paysans l'ont dirigé vers le maquis des Palanges. Alors, est-ce que c'est ce fameux 31e otage? Est-ce que c'est un des Azerbaïdjanais de la garnison de Rhodes, parce que là aussi il y a eu des petits problèmes, ils ont essayé de se mutiner avant le départ des Allemands, certains ont été exécutés, voilà, c'est l'énigme, on ne le sait pas, et puis je pense malheureusement que on le saura jamais.
Oui,
donc lieu vraiment important, et lieu donc de départ vers les camps de concentration pour les Juifs, et vers donc la butte de tir et le lieu de l'exécution de Sainte-Radegonde le 17 août. Donc c'est vraiment vraiment important et vraiment symbolique de partir de là. Ensuite, nous remontons vers la caserne Roche. Je dois quand même préciser que c'est une balade. Je vais vous parler, je vais vous énumérer donc ces 22 lieux. Alors pas trop, va falloir suivre un peu, pas trop de manière chronologique, mais plutôt de manière géographique. Je vous l'ai dit, c'est une randonnée mémoire. Mm-hmm. On va partir donc de cette fameuse caserne pour aller vers Sainte-Radegonde. Tout mon propos va se dérouler de manière géographique.
En cheminant.
En cheminant, parce que vous verrez, on va partir le 17 août 44, on va revenir un peu avant. Voilà, dans le temps, on va naviguer un peu. Mais il faut suivre par rapport à ce parcours. Donc, numéro 2, juste au-dessus de la caserne Burloup, c'est la caserne Roche, l'actuelle caserne de gendarmerie Béteille, construite en 1874. On en a parlé également. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va servir pour la gendarmerie, alors pas nationale, mais c'est ce qu'on appelle la garde. La garde, c'est à l'époque, c'était l'ancêtre de ce qui deviendra après-guerre la gendarmerie mobile. C'est un lieu assez particulier. Vous pourrez le voir justement en retrouvant le podcast. Chaque fois, il y a une petite photo pour imager la chronique. Et c'est une photo assez exceptionnelle que j'ai réussi à trouver. Vous savez que je suis collectionneur. C'est une photo inédite qui nous montre la garnison allemande de Rhodes au garde-à-vous, devant la caserne. Et si on agrandit, si on regarde bien au fond, alors il y a le drapeau à croix gammée sur le centre de la place pour justement cette prise d'armes. Mais au fond, ce qui est assez particulier, parce qu'il était quand même interdit à l'époque, mais là c'était un bâtiment officiel pour la gendarmerie, il y a le drapeau français, donc le drapeau tricolore sur le bâtiment qui côtoie ce drapeau à croix gammée. Nous continuons. Alors là, nous allons entre cette fameuse gendarmerie et le mur des tennis qui a disparu maintenant. C'est le petit mur, on va dire, qui est entre le reste de vieux mur, qui est entre l'actuelle salle des fêtes et l'actuelle caserne de gendarmerie.
Ouais.
Là, il y avait des tennis autrefois. Et contre ce mur, s'est passé un événement un peu là aussi tragique. Nous sommes le 18 août. 18 août, jour de la libération de Rodez. Alors, libération, c'est un bien grand mot, puisque, je vous le rappelle, donc les fusillés exécutés le 17 août, juste avant le départ des Allemands. Les Allemands qui partent dans la nuit, très très tôt aussi le matin, pour les derniers éléments du 18 août. Et une fois Rodez évacuée par les troupes d'occupation, les rues sont envahies par la foule avec des drapeaux tricolores. La résistance rentre aussi, notamment les premiers maquis, le maquis Jean-Pierre de la vallée du Lot, du côté d'Espalion, Estin, arrive dans Rodez. C'est, voilà, c'est la fête. Et on voit beaucoup de reportages, on voit beaucoup de documentaires où on voit des femmes tondues.
Ah oui.
Pour, je le rappelle, ce qu'on disait à l'époque, collaboration horizontale. Mmh. Comme on disait à l'époque, en fait, elles avaient couché avec les Allemands, elles avaient couché avec les Boches. Mmh. Voilà, à une époque où on manquait de tout, on les accusait déjà de donner, soi-disant, des renseignements à l'ennemi, ce qui, en général, était faux, bien que ça a pu arriver, mais c'était quand même très rare. Et surtout, on les accusait, à l'époque où on manquait de tout, et surtout de nourriture, d'avoir peut-être, avec l'occupant allemand, un peu plus de facilité à se nourrir. Enfin, voilà, beaucoup de jalousie. À Rodez, nous n'avons pas eu de femmes tondues, hélas. Je dis hélas parce que peut-être il aurait mieux valu. Nous, on va trouver des femmes qui ont été malheureusement exécutées.
Ah, d'accord.
Ouais, donc c'est quand même beaucoup plus tragique. Mmh, c'est cruel, c'est affreux. Moi, je supporte pas de voir ces images à la télé de femmes tondues. Mais là, elles ont pas du tout été tondues, mais elles ont carrément été fusillées. Alors, trois femmes. Une femme qui s'appelait Madame Martin, qui est relativement connue sur Rodez, excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça qu'on l'a surnommée à l'époque, la négresse, parce qu'elle était, en fait, elle était métisse. Elle a été sauvée. Elle n'a pas fait partie des fusillés. Elle a été sauvée par le pasteur protestant de Rodez, qui s'appelait le pasteur Ex-Braya, qui l'a exfiltrée de la foule à grands coups de poing dans la figure, parce que les gens n'étaient pas très très contents qu'on lui enlève cette femme qui voulait châtier. Il y a des photos d'ailleurs, tu vois, jusqu'où on peut aller par méchanceté. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet de foule, l'effet de masse. Cette femme avait des formes assez généreuses. On retrouve des photos, notamment une photo où on la voit promener dans les rues de Rodez, et ça, les gens d'un certain âge s'en souviennent, ça marque, surtout quand ils étaient enfants à l'époque, complètement déshabillés, complètement, sur le capot d'une voiture, promener dans les rues de Rodez. Mmh. Donc, elle va réussir à être exfiltrée, à être sauvée, les deux autres, non. Les deux autres, qui resteront habillés, elles, par contre, on les conduit sans procès du tout contre ce fameux mur des tennis, et on va les fusiller, voilà, froidement. Je reviens à Madame Martin. Madame Martin, quelques mois après, sera rattrapée par la justice. Elle va passer devant le tribunal d'épuration. Tribunal d'épuration, c'est un mot quand même qui est vraiment très très dur avec tout ce que ça comporte. Elle va passer devant le tribunal d'épuration justement pour être jugée, et elle sera reconnue innocente.
Ah, elle a échappé belle.
Elle l'a échappé belle, mais tu vois, ça, si les deux autres avaient elles aussi été jugées, mais peut-être sûrement. Malheureusement, ça se serait passé un petit peu mieux pour elle. C'est vraiment dommage. Juste à côté, nous avons le stade de foot, stade Paul Lignon, stade qui fait foot aussi et rugby. Paul Lignon, ça a pris le nom en fait d'un joueur de l'équipe de rugby de Rodez, qui jouait juste avant la guerre, et qui est mort pour la France le 23 août 1940 à Auch, ça s'appelle. C'est un village des Ardennes.
Ah oui, d'accord.
Et oui, mort au combat. Et il faisait partie du 5e régiment d'infanterie coloniale. Mmh. Alors, en hommage, le stade de foot a pris son nom. C'est un joueur qui est originaire du monastère. En fait, moi, je suis monastérien. Mon caveau de famille, ma résidence secondaire pour plus tard, se trouve juste à côté, justement, de la tombe familiale des Lignons, où il y a justement le nom de Paul Lignon de marqué. Ensuite, nous revenons un petit peu vers le centre-ville, un petit peu décalé. Je crois que c'est une rue que tu m'as dit que tu connaissais. Nous allons aller à l'angle des rues Pasteur et Séguré-Saint-Cric.
Ah bah oui, j'habite à côté.
C'est ce que tu m'as dit.
Oui. Oui.
Alors, à l'angle de ces deux rues, se trouvait, je dis bien se trouver, parce que maintenant il y a un mur, et je crois que derrière se trouve la cour de l'école primaire
Ah oui, oui, oui.
Saint-Jean d'Arc, ouais. je crois, mmh. qui se trouve là. En fait, à cet endroit-là se trouvait un bâtiment où était le siège de l'Office du travail obligatoire, ouais. Le STO, mmh. créé donc le 13 février 1943. Donc, je rappelle rapidement, hein, le STO avait pour but d'envoyer, comme beaucoup d'Allemands étaient sous les drapeaux ou étaient morts au combat, notamment sur le front russe, les Allemands manquaient énormément de main-d'œuvre. Et le Troisième Reich s'est tourné vers les pays occupés et en demandant au gouvernement l'obligation d'envoyer des jeunes en âge de travailler mmh. en Allemagne. À l'époque, bon, ça a fait polémique, je crois qu'ils ont perdu ce nom-là, mais à l'époque, c'est ce qu'on appelait les déportés du travail. Donc beaucoup de jeunes ont perdu une grosse partie de leur jeunesse dans ce fameux STO. Et c'est aussi ce qui a permis le développement et la création de beaucoup de maquis dans nos campagnes, puisque parmi les premières personnes à rejoindre ces maquis, il y avait justement les réfractaires au STO. Mmh. Ces fameux mmh. jeunes qui voulaient pas partir et qui donc étaient obligés de se cacher pour pas être arrêtés. Nous partons pour le numéro 6. Oui. Alors là, je vais rester un petit moment sur ce lieu et nous finirons aujourd'hui par ce lieu et tout autour de ce lieu. C'est la place d'armes.
Ouais. Bien sûr.
Ah ben, bien sûr. Surtout à l'époque, beaucoup plus que maintenant. Maintenant, on tourne autour ouais. de la place d'armes. C'est une place qu'on regrette beaucoup d'anciens ruténois parce que elle est un peu tristounette, elle est minéralisée. À l'époque, il y a qu'à voir les photos anciennes. Il y avait un très beau parc au milieu, où se trouvait, depuis l'après-guerre de 14-18, le monument aux morts.
Oui.
Qui maintenant se trouve petit angle du jardin public à côté de l'avenue Victor Hugo. Alors, c'est un lieu très, très, très important. C'est un lieu qui abritait, en fait, tous les lieux de la vie publique, politique, religieuse de Rodez des années 1900, 1945, même peut-être un tout petit peu après, bien que ça ait commencé un peu à baisser. Il y a qu'à voir toutes les cartes postales, toutes les photos, toutes les archives d'arrivées, de courses, de cérémonies, d'hommages, de fêtes. Voilà, vraiment beaucoup beaucoup de choses se passaient sur cette place d'armes, avec donc cette superbe sculpture de Denis Puech qui a été aujourd'hui déplacée pas très très loin. Notamment, je vais vous en parler après, le préfet, pas après mais la fois prochaine, pardon, notre fameux préfet Jean Moulin, mmh. Qui a été préfet donc deux fois de l'Aveyron. Il existe de très très belles photos où on le voit déposé en uniforme de préfet avec son joli képi brodé, où on le voyait déposer des gerbes de fleurs donc au pied du monument. Ça, c'est des photos qui sont qui resteront vraiment dans la mémoire des ruténois. C'est là aussi que tout le monde se précipite le 18 août pour célébrer, pour fêter la libération de Rodez. C'est là également que, on parlait de Saint-Aura-de-Gonde, que le 20 août 1944 va être célébré par l'évêque de Rodez la messe de funérailles mmh. des 30 fusillés de Saint-Aura-de-Gonde. Il y a des photos extraordinaires, moi j'en ai quelques-unes d'époque, notamment prises du haut de la cathédrale, dans une vue plongeante où on voit les 30 cercueils alignés en demi-cercle devant ce monument, à l'intérieur de ce jardin public, et tout Rodez. Je crois que c'est un des événements de l'époque où il y a eu le plus de personnes rassemblées en même temps à Rodez qui sont là vraiment pour leur rendre hommage avant que le cortège funèbre descende la rue Béteille et aille jusqu'au cimetière de Rodez pour enterrer provisoirement ces 30 malheureux. Donc je crois que c'est en 1974, si je me trompe pas, que la place va être changée et minéralisée et où le monument va déménager. Nous allons pas loin, nous allons à la cathédrale maintenant. La cathédrale, pour voir, alors peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais dans une des chapelles, vous avez deux vitraux qui sont vraiment à signaler, qui sont très très jolis. Alors il y a des vitraux un peu spéciaux à la cathédrale, on est pour, on est contre, avec, je sais pas si t'es déjà rentré, déjà très très rouge, alors que bon, pour du religieux, le rouge c'est pas trop c'est pas trop ça, avec des globules de sang, des trucs un peu, je dirais presque un peu glauques. Là par contre, je vais vous parler de deux vitraux qui ont été offerts par l'association des prisonniers de guerre aveyronnais, qui ont été payés par eux. Un vitrail sur les prisonniers de guerre. On avait fait une émission justement où on parlait du 122e à Dunkerque. Alors, hors mémoire avéronaise, j'avais invité, c'est là où on s'était rencontrés justement, pour parler du sacrifice des Aveyronnais à Dunkerque. Alors, justement, on voit le premier des vitraux, c'est la première partie, c'est les soldats français sur la plage de Dunkerque. Alors, on peut facilement imaginer que c'est le 122e, en train d'attendre des bateaux mais qui ne viendront pas. Ensuite, on voit une vue des stalags avec donc les camps de prisonniers. On en a parlé il y a pas très longtemps, avec Mirador, un berger allemand avec des gardiens assez méchants. Et puis le retour de ces prisonniers libérés en 45 à Rhodes avec Sainte-Foy, parce que Sainte-Foy, parce que Sainte-Foy était beaucoup priée au Moyen-Âge par les prisonniers et les esclaves, parce que on disait que Sainte-Foy libérait les prisonniers et les esclaves.
D'accord.
D'ailleurs, quand vous allez à Sainte-Foy, il y a des grilles qui protègent le cœur, des grilles en fer, et les plus anciennes, vous verrez, ce sont des fers d'esclaves ou des fers de prisonniers qui ont été rechauffés et retravaillés pour faire les grilles. Premier vitrail, un autre vitrail juste à côté, très intéressant aussi, assez joli, qui représente la vie des femmes durant la guerre. Alors, vous avez aussi bien l'agricultrice qui est obligée de passer la charrue dans son champ parce que son homme est à la guerre. La religieuse qui fait infirmière et qui soigne les blessés. Plein de figures de la vie. Il y a Jeanne d'Arc aussi qui protège la France. Je vous rappelle, c'est la cathédrale, on est dans un lieu religieux. Donc, ces deux vitraux sont l'un à côté de l'autre. Quand vous rentrez par le portail nord, c'est-à-dire le portail qui est côté évêché, vous tournez à droite en rentrant, et c'est peut-être la deuxième et la troisième chapelle. Il me semble que c'est pas la première. Vous trouverez, et puis perdez-vous dans la cathédrale, ça sera tant mieux pour vous, comme ça vous pourrez voir toutes les belles choses qui sont dedans.
Tout à fait.
Nous retournons place aux armes pour aller aux colonnes.
Oui.
Alors bon, on va pas boire un verre aux colonnes. vous pourrez y aller. Vous pourrez vous y arrêter si vous voulez en faisant cette randonnée. Nous, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est la période où le café des colonnes n'était pas un café. Il a eu une vie un peu particulière, ce café, parce que ça a été café. Ensuite, un magasin de confection, d'habillement. Et pendant la guerre, c'était le siège départemental de la Légion française des combattants et de la Révolution nationale.
Je ne connais pas.
Tu connais pas déjà ta palage. Alors, c'est une association qui regroupait tous les anciens combattants de la guerre de 14. Le maréchal Pétain, en fait, a fait dissoudre beaucoup d'associations quand il est arrivé au pouvoir, surtout les associations, bien sûr, de gauche ou qui pensaient pas trop comme lui, pour en fait ne faire que des associations d'État, des associations officielles.
Ouais, d'accord.
Donc tous les anciens combattants de la guerre de 14, je rappelle, c'était le héros de Verdun à cette époque-là, étaient regroupés donc sous le nom de Légion française des combattants. Et à cet endroit-là, donc, c'était vraiment le siège de la culture du maréchal Pétain, du pétainisme, etc., etc. Il s'est un petit peu trompé, le maréchal, parce que il a beaucoup compté sur ses anciens combattants de 14 pour faire une réserve un petit peu politique, ce qui a marché les premières années du régime de Vichy, mais très rapidement, quand les gens ont vu ce que donnait le régime de Vichy, se sont éloignés, y compris beaucoup de légionnaires de cette Légion française des combattants, de sa façon de voir les choses. Pas très loin, place aux armes toujours, le studio photo Neurigat. Alors, c'est à l'angle, ben juste à côté, hein, tout ça c'est tout près de nos studios, tout près de la rue, à l'angle de la rue Abbé Bessou.
Ouais, d'accord.
Il y a, je sais plus,
soit le broussi, soit les lunettes.
C'est des lunettes, voilà c'est okay. Ça. Le broussi, on en parle juste après. Neurigat était un photographe très connu sur Rhodes. J'ai parlé de tous les événements qui avaient place d'armes. Lui, il était bien placé puisqu'il avait la place d'armes sur le devant de porte. Et il a photographié tous les événements de la vie ruthénoise, et puis également beaucoup de gens allaient chez lui. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de choses éditées en carte postale. Il prenait des photos de ce qui se passait au niveau événements publics, politiques, religieux, etc. Et après, on pouvait rentrer chez lui et on avait ses photos sur des portants, comme des cartes postales en fait. Il éditait ses photos en ce qu'on appelle maintenant des cartes photos. Et on en retrouve beaucoup de ces événements. Notamment, la Société des Lettres a une collection très intéressante de photos, j'ai travaillé dessus pour un article pour la Société des Lettres, sur le fond de Noirigat, sur des photos d'Allemands qui venaient eux aussi se faire prendre en photo. C'est assez amusant, il y a des résistants aussi, le tapis, le décor reste, ouais. Hein, c'est les lieux restent, la décoration aussi, les gens passent, c'est la vie. Un caricaturiste très 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 connu à l'époque, Raoul Cabrol. Raoul Cabrol était recherché par toutes les polices allemandes parce que il avait fait une caricature d'Adolf Hitler qui était vraiment 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 pas au goût du Führer. Ouais. Donc recherché pour avoir fait un crime de lèse-majesté, recherché par toutes les polices allemandes et caché par Neurigat dans cet immeuble.
D'accord.
Ben, donc deux personnages assez connus de la vie ruthénoise. On parlait donc de l'hôtel Broussy, c'est le numéro 10, actuel hôtel Mercure. Il sera réquisitionné comme beaucoup d'hôtels de Rhodes et lui va servir comme messe pour les officiers allemands.
Ouais, d'accord. Voilà,
très joli.
Messe, c'est une cantine, quoi.
Art déco.
En mieux.
Oui, messe, c'est une...
Un resto, même, on peut dire.
Ouais. Resto, ouais. Club. Il devait y avoir des chambres aussi. Voilà, mais réservé pour l'armée allemande. Les officiers de l'armée allemande, parce que la troupe et les ses officiers étaient à l'actuel hôtel du Midi. Là, on est tout à fait en haut de l'arc Béteil. Vous voyez, on tourne vraiment autour de cette place d'armes. C'était à l'époque l'hôtel Doty.
Ouais.
Alors, l'hôtel Doty, c'était le foyer pour donc les soldats et les sous-officiers de l'armée allemande.
On enchaîne peut-être avec une dernière étape sur cette balade ruthénoise sur les lieux de l'occupation et de la collaboration et de la libération, Vincent.
Oui, bien sûr. Dernière étape pour aujourd'hui, la numéro 12, c'est... Alors, on est dans les hôtels, restons dans les hôtels.
Oui.
Qui est à vendre d'ailleurs? Je crois qu'il n'a pas encore été vendu, sauf si je me trompe. L'hôtel Binet.
Ah ouais, enfin, je ne suis pas dans les petits papiers du truc, mais il était à vendre. Ouais,
juste à côté des studios. Alors, l'hôtel Binet, par contre, avait été choisi... Alors, ça ne servait pas d'hôtel, mais avait été choisi pour accueillir l'Horst Kommandantur 802, le commandement de la place de Rhodes, tout ce qui était état-major, tout ce qui était militaire, tout ce qui était service administratif de l'armée allemande, y compris les bureaux de la Feldgendarmerie, c'est-à-dire la gendarmerie de campagne, l'équivalent de la prévôté militaire, se trouvait à cet endroit-là.
D'accord, oui, ils étaient vraiment tous en centre-ville de Rhodes, les Allemands.
C'est ça.
Ils avaient du goût, on va dire.
Ah ben, ils avaient le choix.
Ouais, ils avaient le choix.
Et puis, fallait obtempérer, sinon, voilà.
Très bien, Vincent, on s'arrête là pour cette première partie de cette balade ruthénoise sur les lieux de l'occupation, de la collaboration et de la libération. On se retrouve dans 15 jours pour la suite et la fin avec 10 autres lieux à découvrir grâce à toi.
Ben, merci.
Merci à toi et à dans 15 jours.
À dans 15 jours, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.